9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. À 4 mois de la prochaine élection présidentielle, Emmanuel Macron a défendu mercredi soir sur TF1 le bilan de ses presque 5 ans à l'Élysée. L'historien et philosophe Marcel Gaucher s'est livré au même exercice, mais dans un livre, Macron, les leçons d'un échec, qui vient de paraître aux éditions Stock. Il est mon premier invité ce matin. Et puis les magistrats, les greffiers, les fonctionnaires de justice se sont mobilisés cette semaine à l'appel de 17 organisations professionnelles et syndicales. Céline Parizeau, la présidente de l'USM, le principal syndicat de magistrats, va nous expliquer pourquoi. Et l'on terminera l'émission avec Karine Nebot, qui a ouvert 6 délicatessen à Paris en un an. Mais c'est quoi exactement des délicatessen, à part que ça se mange? Elle va nous le dire.
Europe 1.
Bonjour Marcel Gaucher, vous êtes
Bonjour.
L'auteur entre autres de L'avènement de la démocratie en 4 tomes et de Comprendre le malheur français. Vous avez été le rédacteur en chef de la revue Le Débat pendant 30 ans et vous venez de publier chez Stock le tome 2 de Comprendre le malheur français sous le titre Macron, les leçons d'un échec. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage de divertissement politique comme il en paraît régulièrement sur le président de la République. Il n'y a pas d'anecdote savoureuse ni de psychologisation, c'est un livre d'historien, un livre de philosophie politique que devraient peut-être lire tous les candidats à la présidentielle, car le gagnant ou la gagnante, qui que ce soit, sera confronté au même problème qu'Emmanuel Macron, y compris Emmanuel Macron d'ailleurs, s'il se succède à lui-même. Et d'abord, comment l'avez-vous trouvé mercredi, Emmanuel Macron, dressant son bilan à la télévision?
Je l'ai trouvé égal à lui-même, c'est-à-dire brillant et habile. Dans l'exercice, il est souverain et il écrase aisément ses adversaires. Après, autre chose est de juger du fond. Chez lui, précisément, le talent dans la forme sert souvent à escamoter le fond.
Votre livre explique pourquoi Emmanuel Macron, qui avait plutôt bien compris le malheur français, d'après vous, n'est pas parvenu à y remédier. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, ou plutôt nous résumer, ce que vous appelez le malheur français?
C'est ce sentiment répandu et attesté par toutes les études d'un pays qui est sur une mauvaise pente, une pente d'affaiblissement, et derrière encore ce sentiment très répandu et qui nourrit un pessimisme bien connu des Français sur leur avenir collectif, sur l'avenir du pays, il y a un malaise profond à l'égard des modèles dominants qui sont administrés depuis Bruxelles, par exemple, et qui correspondent à la logique de la mondialisation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, dans laquelle une partie très importante des Français ne se reconnaît pas. Cela déroute leur culture politique très enracinée, qui ne colle pas avec ce que sont devenues les règles du monde environnant, auxquelles il a bien fallu s'adapter, bien entendu, mais qui suscite d'autant plus de ce sentiment de malheur que nous voyons bien que dans l'opération, nous sommes perdants. Et ce que nous sommes obligés de faire collectivement ne correspond pas à ce que, au fond, le citoyen français de base considère savoir-faire. Il y a une sorte d'écart entre notre héritage et les contraintes que nous crée une actualité que nous ne maîtrisons pas.
Et ça, Emmanuel Macron l'avait bien compris, d'après vous, hein. Il l'avait bien analysé. Alors qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas parvenu à changer les choses ?
Quand on regarde domaine par domaine, où d'ailleurs des choses tout à fait significatives ont été faites qui me paraissent aller dans le bon sens, on ne peut pas faire un bilan uniformément négatif, il y a eu. Mais sur le fond, la perception pertinente qu'avait Macron, je crois, de ce sentiment collectif qui se traduit dans des mots comme déclin, déclassement, ou simplement dans le sentiment pessimiste à l'égard du devenir de la France, il a joué des cartes qui se sont révélées inopérantes. Par exemple, au premier chef, puisque c'est décisif pour le sort de nos pays en Europe, à l'égard de l'Union européenne. il ne nous avait-il pas annoncé, sentant bien que quelque chose ne collait pas dans le rapport des Français à l'Europe, ni plus ni moins une refondation de l'Europe. À l'arrivée, nous voyons bien que la refondation en question n'est restée qu'un mot quand il n'a pas suscité l'ironie de nos partenaires européens. On peut dire autant la même chose sur le plan de la place de la France dans le monde. Tous les événements récents, je pense par exemple à la rupture du contrat de vente des sous-marins à l'Australie, montre que nous ne sommes plus dans la cour des grands où Macron voudrait absolument continuer de nous faire jouer. Il a donné le sentiment qu'il allait y arriver, il a échoué. Quant à la politique intérieure, elle a en fait poursuivi sur la continuité, elle a été dans la continuité de ses prédécesseurs. Au premier plan, la désindustrialisation du pays s'est poursuivie et même amplifiée à de certains égards, dans certains secteurs. La crise du sanitaire l'a fait ressortir avec éclat. Et on peut poursuivre domaine par domaine. Finalement, il n'a pas inversé la pente et il n'a pas esquissé une ligne de redressement qui était au fond l'attente qu'il avait suscité et qui explique beaucoup de l'agressivité dont il fait l'objet. Parce que quand on ne suscite pas d'espérance, ben les gens s'accommodent de vous. Mais quand vous suscitez de grands espoirs, évidemment, le sentiment de déception nourrit une haine tout à fait particulière à son égard, qui n'est pas la seule explication. Mais on voit très bien qu'autant il contente une partie de l'opinion qui, au fond, se retrouve dans ses orientations, s'accommode de sa gestion, la masse de la population est au moins réfractaire, disons. Avec une hostilité tout à fait particulière à l'égard de sa personne, qui est surprenante compte tenu, justement, d'un caractère plutôt personnellement sympathique de l'homme.
Alors justement, ce qui est de plus intéressant dans votre livre, c'est l'explication que vous donnez, les leçons que vous tirez de cet échec. On fait une pause, Marcel Gauchet, et on va les énumérer.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Marcel Gauchet qui publie Macron, les leçons d'un échec aux éditions Stock. Les raisons que vous donnez à l'échec que vous venez de décrire d'Emmanuel Macron, c'est que la Ve République, d'après vous, fonctionnait grâce à de puissants partis politiques. Emmanuel Macron les a réduits à peau de chagrin. Il n'y a plus aujourd'hui que le président de la République. Il a été élu en marchant à la rencontre des Français, dites-vous, dans un rapport horizontal auquel a succédé, une fois élu, une verticalité de plus en plus grande. Sa majorité, ses ministres et même ses premiers ministres ont disparu. Il n'y a plus qu'Emmanuel Macron. Est-ce que ça n'est pas, au fond, l'aboutissement logique de la Ve République, une fois le mandat du président réduit à 5 ans?
Alors, c'est l'aboutissement logique compte tenu de facteurs qui s'imposent au président. Il n'y a pas de contrainte institutionnelle absolue. Il y a une lecture de la situation qui est offerte au président compte tenu des rapports de force qui existent par ailleurs. Alors, une chose, je crois, qui a été funeste pour Emmanuel Macron, qui peut paraître paradoxale, c'est l'étendue de la majorité parlementaire qu'il a obtenue d'une façon qui a surpris tous les observateurs. Il était libre. Au fond, il avait un Parlement à sa main. Il n'avait absolument pas l'obligation de s'occuper de ce que pouvaient penser des députés qui votaient comme un seul homme tous les textes qui leur étaient soumis. Et l'élément supplémentaire qui a joué en sa défaveur, je crois, au final, c'est en fait, l'élection de 2017 a été un triomphe personnel qui a entraîné la formation d'une majorité écrasante au Parlement, mais qui, en fait, reposait sur lui seul. Emmanuel Macron est un président seul. C'est un homme seul, sans équipe véritable pour l'épauler, le relayer, sans ancrage dans le pays. Et d'ailleurs, cet entretien récent le montrait. Au fond, il n'était question que de lui. La politique française, c'est lui. Le reste n'existe pas. Mais ce n'est pas possible, en fait, de gouverner un pays comme la France dans de telles conditions. On ne s'en était pas aperçu jusqu'à présent parce qu'on avait affaire à des systèmes de partis puissants qui pouvaient d'ailleurs entraver l'élection du président de la République, mais qui créaient un relais entre lui et le pays qui n'existe plus. Cette solitude du pouvoir me paraît une des raisons profondes du fait que sa politique est mal comprise, mal reçue et aussi mal définie dans l'esprit des populations qui ne la comprennent pas toujours.
D'où le caractère hâtif ou superficiel, dites-vous, de l'appréciation des situations, notamment avec les Gilets jaunes ou pendant la crise du Covid.
Oui, en effet, c'est là où on voit à quoi servent les partis. Ils font remonter ce qui se passe dans le pays. Ils donnent écho aux préoccupations des citoyens. Ils peuvent manifester, ils pèsent dans la décision collective. Là, l'improvisation de départ joue un rôle important, mais l'absence de relais et de communication avec le pays conduit en effet à des appréciations finalement très technocratiques et très coupées des préoccupations de la base. On l'a vu dans ces deux circonstances exceptionnelles qui ont marqué le quinquennat, qui sont évidemment la crise des Gilets jaunes et la crise sanitaire.
Ce que vous expliquez dans votre livre, Marcel Gauchet, c'est que Emmanuel Macron avait des ambitions au moment où il a été élu, mais il n'a pas eu les moyens de ses ambitions parce que l'État, dites-vous, l'administration, la technocratie ne sont plus ce qu'ils étaient.
C'est le non-dit de beaucoup, je crois, la tâche aveugle de beaucoup d'analyses de la situation. C'est qu'il ne suffit pas d'un système politique qui fonctionne, il faut un système administratif, un appareil d'État performant. Et celui-ci, ça n'est pas Emmanuel Macron qui est à l'origine de la situation, et ça vient de bien plus loin. Nous avons affaire à un État largement démembré et devenu largement inefficace. À une exception près, qui a été salutaire pour la crise sanitaire, qui est le ministère des Finances, qui, évidemment, continue, lui, d'avoir une très solide équipe technique et qui s'est très efficacement comportée pendant la crise sanitaire. C'est à lui que nous devons d'avoir pu passer ce moment terrible sans heurts. Globalement, je crois que l'affaiblissement de l'État est constatable au travers des services publics, de l'éducation, de la santé. On pourrait multiplier les analyses de détails, on n'a pas le temps de le faire, bien entendu. Je crois que c'est une des choses qui rendent le moral des Français particulièrement bas, parce qu'ils ont l'habitude de compter sur un État qui marche. On ne l'aime pas, on peut protester contre lui, mais on sait qu'il fonctionne. Et là, il dysfonctionne gravement.
Au fond, vous reprochez à Emmanuel Macron un excès de confiance dans les recettes de la technocratie. Une technocratie qui se croit éclairée, dites-vous, alors qu'elle n'est plus que suiviste.
Parce que, oui, c'est un constat qui est difficile à prouver parce qu'il s'agit vraiment d'une impression qu'on peut détailler, mais qui ne se prouve pas par définition. Nous sommes dans un pays qui n'a pas pris, y compris au sommet, la mesure de la nouveauté de la situation, ne serait-ce que parce qu'il n'en a pas les moyens. Nous vivons sur des modèles de formation de notre haute fonction publique du passé, qui ont pu faire merveille il y a 50 ou 60 ans, mais qui ne sont plus adaptés à la situation actuelle. Et je suis frappé par le hiatus qui existe entre le discours technocratique et la réalité des situations que nous sommes contraints de vivre, que ce soit en Europe, que ce soit à l'échelle internationale ou que ce soit dans le fonctionnement de l'économie globale. C'est l'aspect personnel en quelque sorte de ce dysfonctionnement de l'État. Nous avons un État qui culturellement est très en retard sur la situation qui l'a à gérer. Et du coup, évidemment, ça n'arrange pas l'efficacité de ses résultats.
Dernière question, Marcel Gauchet. Comment expliquez-vous que Emmanuel Macron est toujours le favori pour la prochaine élection présidentielle ?
Mais ce n'est pas si surprenant que ça. Il y a un paradoxe au fond de la situation d'Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est présenté comme le candidat de la rupture, de la transformation, voire de la révolution. Et puis, il s'est avéré en cours de route qu'en réalité, il était le candidat naturel, si je puis dire, des gens à qui la continuité de la situation établie profite et dans laquelle ils se retrouvent culturellement, aussi bien que du point de vue de ce qu'ils estiment être leurs intérêts. L'homme de la rupture est devenu l'homme de la continuité et de la promesse d'une stabilité relative dans cette situation de marasme qui n'est pas un marasme pour tout le monde, bien entendu. C'est ce qui fait qu'il est encore le candidat le mieux placé, je crois, en effet, outre son talent personnel qu'il ne faut surtout pas oublier et qu'il nous a montré comme performance d'acteur, il est remarquable. On l'a vu il y a quelques jours, mais il n'y a pas de surprise. C'est le meilleur du point de vue du rôle politique et il a, pas derrière lui, une base très solide. Donc il est d'une certaine façon normal qu'il représente ceux pour qui le malheur français collectif est une manière de bonheur personnel.
Merci Marcel Gaucher. C'est donc le tome 2 de Comprendre le malheur français qui vient de paraître chez Stock sous le titre Macron, les leçons d'un échec. On fait une pause et l'on va pouvoir examiner un cas pratique de ce que vous venez de nous décrire. C'est le cas de la justice. Les magistrats étaient dans la rue cette semaine, mais ce n'était pas contre le président qui manifestait, ni même contre le garde des Sceaux.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Le slogan « Plus d'argent pour la justice » a rassemblé mercredi dans toute la France des centaines et des centaines de magistrats, de greffiers, de fonctionnaires de justice à l'appel de 17 organisations professionnelles et syndicales. Des avocats, eux aussi, se sont joints aux manifestations. Céline Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente du tribunal de grande instance de Grenoble et présidente de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, le principal syndicat de magistrats de France. Pour la première fois, vous appeliez à la grève aux côtés du syndicat de la magistrature, classé à gauche. Je croyais que les magistrats n'avaient pas le droit de grève.
Ah, c'est un débat ancien. Nous avons appelé à la grève après avoir procédé à une analyse juridique sur ce point. Et notre Conseil national a décidé qu'il était temps de franchir le pas et de se reconnaître le droit de grève. Finalement, au quotidien, nos droits du travail sont bafoués. Il était temps qu'on se les applique à nous-mêmes.
Oui, et sachant qu'il n'y aura pas de magistrat pour vous condamner ensuite.
On n'a pas besoin de magistrats pour nous condamner. Non, on pourrait tout à fait être traduit disciplinairement si le ministère estimait que l'application du droit de grève était une faute.
Ce n'était pas l'actuel garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui était visé. Au fond, il a eu beau jeu de rappeler qu'il avait lui-même arraché avec les dents, je le cite, une hausse historique de 8% du budget de la justice en 2021. Alors c'était qui était visé par ce mouvement?
En fait, ce que l'on visait, c'était à mettre en évidence une insuffisance du budget qui est endémique. Ça fait des dizaines d'années que des moyens insuffisants sont donnés à la justice. Alors effectivement, le ministre a beau jeu de rappeler que sous ce quinquennat, le budget a augmenté. Néanmoins, il parle en pourcentage d'augmentation d'un budget qui est ridicule. Donc augmenter un budget ridicule d'un certain pourcentage qui n'est lui-même pas extrêmement élevé, ça n'a pas vraiment d'impact sur les juridictions. Et je rappellerai surtout que l'impact principal, il est sur le justiciable lui-même. C'est lui qui subit la dégradation de la qualité de la justice.
Une augmentation de 8%, c'est quand même plus d'argent pour la justice.
Alors l'augmentation de 8%, elle concerne l'ensemble du ministère, c'est-à-dire y compris notamment la pénitentiaire. Pour les tribunaux, l'augmentation cette année, c'était 3,4%. Donc on peut quand même relativiser le caractère historique de l'augmentation.
Enfin, pour tous les moyens de la justice, ça représentait, vous avez raison, un peu moins de 8%. C'était 6,8%. Pour la pénitentiaire, c'était plus 9,3% d'augmentation. Mais vous avez raison
voilà,
également.
Voilà, nous c'est 3,4% pour les tribunaux.
Voilà, mais cela fait 25 ans que la justice est négligée par les différents gouvernements qui se sont succédés, de gauche comme de droite. Résultat, en 2018, la France consacrait à la justice 69,50 euros par habitant, alors que la moyenne des 47 pays du Conseil de l'Europe, où l'on retrouve à la fois l'Arménie, la Moldavie ou la Russie, c'est 71,50 euros. C'est quand même plus. Et si l'on compare avec nos proches voisins, c'est encore pire. L'Allemagne, qui dépense un peu plus de 131 euros par habitant, la France, en 2016, avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'était même pas 66 euros, donc la moitié. L'Espagne dépensait 92 92,60 € par habitant, l'Italie 83,20 €. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas manifesté plus tôt contre une telle clochardisation? Le mot est de l'ancien ministre de la Justice de Manuel Valls, hein, Jean-Jacques Urvoas. Il a été repris d'ailleurs par Éric Dupond-Moretti. Pourquoi vous êtes-vous laissé faire?
En fait, on regrette de devoir en arriver là, parce que nous ne nous sommes pas laissés faire. Nous avons fait des demandes, nous avons fait des alertes. Chaque année, nous allons discuter, notamment au Parlement, du projet de loi de finances. Tous les deux mois, nous rencontrons le directeur des services judiciaires auquel nous faisons part des difficultés dans les juridictions. Et nous rencontrons habituellement, régulièrement, le ministre et nous lui faisons évidemment part de ses difficultés. J'en témoigne également le discours du président de l'USM que nous faisons chaque année lors de notre congrès en présence du ministre. Et chaque année, cette problématique des moyens insuffisants ressort très clairement. Donc nous ne nous sommes pas laissés faire, nous avons alerté et là nous n'en pouvons plus, donc nous regrettons vraiment d'en arriver là, mais nous n'avons jamais été écoutés. Donc aujourd'hui, les professionnels n'en peuvent plus et veulent souligner à quel point la justice est en danger du fait de moyens dérisoires par rapport à nos voisins, vous l'avez rappelé, nous sommes au pied du mur. Et il se trouve que la nouvelle génération qui arrive en juridiction, vous savez, cette image de la grenouille qui est dans une casserole d'eau froide et puis on fait chauffer l'eau et puis finalement la grenouille se retrouve à bouillir parce que l'eau a chauffé tout doucement et qu'elle ne s'en est jamais aperçue. Les anciennes générations, c'est un petit peu ça, elles finissent par bouillir alors que la nouvelle génération, elle arrive et elle trouve que l'eau est bouillante. Donc ça a finalement réveillé tout le monde, cette tribune qui est parue dans Le Monde, rédigée par des jeunes, les anciens se sont retrouvés complètement dedans et se sont dit « mais c'est notre souffrance dont ces jeunes parlent, il faut qu'on s'associe à eux ». Et donc ça s'est répandu comme une traînée de poudre jusqu'aux retraités qui ont également signé cette tribune en masse, disant « mais moi j'ai subi ça pendant ma carrière ». Il est clair qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus nous laisser faire, en tout cas nous ne pouvons pas souffrir en silence en attendant que éventuellement nos demandes soient prises en compte.
Une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout, c'est le titre que Le Monde a donné à la tribune à laquelle vous faites allusion, hein, qui est parue dans ses colonnes le 24 novembre dernier, qui est à l'origine de la grève de mercredi dernier et qui a été signée depuis par plus de 60% des magistrats de notre pays. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement, une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout? On fait une pause, Céline Parizeau, et vous allez nous l'explique.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Céline Parizeau, la présidente de l'USM, le principal syndicat des magistrats en France, des magistrats qui ont finalement appelé à la grève mercredi dernier. Juste avant la pause, je vous le disais, qu'est-ce que ça signifie concrètement aujourd'hui, ce manque d'argent dans la justice, cet abandon dont nous parlions et qui dure depuis plus de 20 ans maintenant, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire plusieurs choses. D'une part, du côté des professionnels de la justice, ça veut dire souvent, pas de week-end, souvent des journées à rallonge, travailler avec des moyens informatiques totalement obsolètes, des logiciels tellement mal conçus qu'ils nous font perdre du temps alors qu'ils sont censés nous en faire gagner, et finir des audiences à 2h du matin. C'est nuisible également, évidemment, pour les citoyens qui font appel à nous. Un tiers des audiences correctionnelles se finissent après 21h, d'après un sondage que nous avons fait au mois de septembre. Mais il n'y a pas que ce symptôme-là, il y a plein d'autres symptômes. Pour le justiciable, par exemple, ça peut être attendre 3 ans que l'on statue sur un rappel de salaire. Ça peut être attendre 2 ans que l'on se prononce sur sa demande de divorce ou 10 mois pour se prononcer sur une problématique de garde d'enfants. Imaginez, quand il y a une problématique de violence conjugale, un couple qui a beaucoup de mal à se séparer dans une ambiance absolument délétère pour les enfants, et on met 12 mois à prononcer le jugement qui va organiser cette séparation et qui va leur éviter tous les jours de continuer finalement à se parler sans aucun cadre. Donc ce retard de la justice, cette submersion des magistrats, ce qu'il engendre aussi, c'est des risques de délinquance supplémentaires et des conflits qui sont encore plus importants que s'ils étaient traités rapidement.
Les juges des enfants prennent des mesures de suivi éducatif sans même voir des familles, est-il raconté. Ils n'ont pas le temps ?
Tout à fait. Ils n'ont pas le temps de voir les familles. Ils se contentent, si je puis dire, malheureusement, de voir les familles les plus compliquées, celles pour lesquelles ça se passe le plus mal. Ils les reçoivent sans greffier pour prendre des notes. Ils doivent prendre les notes eux-mêmes. Ils doivent sortir eux-mêmes leurs décisions et parfois même les mettre eux-mêmes sous enveloppe. Ils n'ont même pas de secrétariat pour le faire. Sachant qu'en plus, les mesures qu'ils vont prendre, comme la protection judiciaire de la jeunesse est complètement submergée elle aussi, et les départements qui accueillent les enfants placés de la même manière, ils ne sont même pas sûrs que les mesures qu'ils vont prendre vont pouvoir entrer en vigueur avant qu'elles se terminent, avant le délai qu'ils ont prévu pour cette mesure.
Nous comprenons que les Français n'aient plus confiance dans la justice que nous rendons, car nous sommes confrontés à un dilemme intenable, juger vite mais mal, ou juger bien mais dans des délais inacceptables. C'était écrit en toutes lettres dans la Tribune du Monde.
Oui, cette situation est véritablement scandaleuse. On parle, les psychologues du travail notamment, parlent de souffrance éthique, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout, nous n'avons, magistrats, plus du tout la possibilité de exercer nos missions, en fait. Ce pour quoi nous sommes payés, c'est pas pour signer en bas d'une décision, c'est pour signer en bas d'une décision qui ait du sens. Et que d'autre part, cette décision, elle est complètement inapplicable parce que de toute façon, elle arrive beaucoup trop tard. Eh bien, le juge, finalement, ne sert plus à rien.
Alors, il y a beaucoup de postes vacants, d'arrêts maladie, des audiences surchargées, vous l'avez dit, des procédures classées sans suite, des arrêts de travail pour maladie qui se multiplient. Là encore, c'est une situation qui est vieille de 20 ou 25 ans. Il faudrait quoi pour pouvoir rendre, d'après vous, une justice digne de ce nom ?
Alors, nous, on estime qu'il faut entre 40 et 100% d'augmentation des effectifs. Donc, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faudrait surtout que l'ensemble de la classe politique prenne conscience du fait que la difficulté, elle est réelle, elle est profonde et elle demande un traitement dans le temps. Parce que vous le rappelez, ça ne date pas de ce quinquennat-là. On ne vise pas particulièrement ce gouvernement. C'est l'ensemble des gouvernements qui l'ont précédé qui ont été dans cette carence, qui n'ont pas donné les moyens suffisants à la justice pour fonctionner. Puisqu'aujourd'hui, on nous donne des moyens qui sont tellement insuffisants qu'en fait, c'est un peu comme s'il y avait un énorme trou et que vous mettiez 3 grains de sable dedans. Jamais vous ne remplirez ce trou. Je rappelle par exemple qu'en termes de personnel, nous avons en moyenne 10,9 juges pour 100 000 habitants contre une moyenne européenne pour tout le Conseil de l'Europe. Donc vous le rappeliez tout à l'heure, Russie, Albanie comprise, de 21,4 juge pour 100 000 habitants, c'est-à-dire qu'on en a tout juste la moitié. Et pour les procureurs, c'est bien pire, puisqu'on en a 3 pour 100 000 habitants. La moyenne, c'est 11,25, donc c'est presque 4 fois plus que chez nous. Donc après, on peut pas s'étonner dans ces conditions-là que ça puisse pas fonctionner. On vient nous dire ces systèmes ne sont pas totalement comparables, voire pas comparables du tout. Mais même s'ils ne sont pas totalement comparables, le déficit, l'écart est tel qu'on ne peut pas prétendre que ça puisse fonctionner. On ne peut pas prétendre que la délinquance est 4 fois moindre chez nous que chez nos voisins. Tous les procureurs de tous les pays du monde traitent de la délinquance. Selon les pays, elle est plus ou moins importante. Elle n'est pas 4 fois moindre chez nous que la moyenne européenne. Ça, ce n'est pas possible. Donc pourquoi a-t-on 4 fois moins de procureurs ? Il y a une vraie évaluation à faire dans le temps. Et ça, la classe politique dans son ensemble doit réellement en prendre conscience avant qu'il soit vraiment trop tard et que les justiciables se retrouvent dans les plus grandes difficultés, ce que l'on voit quand même déjà aujourd'hui.
Il y a actuellement des états généraux de la justice qui se sont ouverts le 18 octobre et qui doivent durer 3 mois. Et puis surtout, il y a une campagne présidentielle. C'est l'occasion ou jamais d'en faire un engagement de tous les candidats.
Tout à fait. Nous avons bien l'intention d'interpeller les candidats. Nous le faisons de toute façon à chaque campagne électorale. Nous les interrogeons, nous leur demandons leur avis sur la justice, sur différents points. Nous leur demanderons, là encore, leur avis sur ce qu'ils comptent faire pour la justice et sur les moyens qu'ils comptent lui donner. Quant aux états généraux de la justice, je rappellerai quand même qu'il a fallu cette tribune et ce mouvement pour que la question des moyens y soit intégrée. Elle n'y était pas, elle n'y figurait dans aucune des lettres de mission d'aucun des ateliers et pas plus de celui de la commission Sauvé qui chapeaute le déroulement de ces états généraux. La question des moyens de la justice était totalement éludée et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque nous avons organisé la manifestation du 15 décembre, nous avons choisi d'aller devant Bercy. C'était pour montrer que la question des moyens était absolument centrale aujourd'hui. Et c'est ce qui a permis d'intégrer la question des moyens aux états généraux.
Merci Céline Parizeau d'avoir été mon invitée sur Europe 1. On fait une pause, on se retrouve juste après. On va parler de délicatessen.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Karine Nebeau.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes directrice générale de Caviari, une maison de caviar familiale fondée il y a une quarantaine d'années. Et en un an, vous avez ouvert à Paris 6 délicatessen, un mot peu utilisé en France mais qui a une longue histoire. Hein.
Exact, exact. L'étymologie du mot vient de l'allemand. Donc délicate, délicate et essen manger. J'ai pas fait allemand, mais mon fils l'a fait, donc j'ai mes antisèches. Et en fait, à l'époque, ce sont des épiceries fines qui se sont créées en Allemagne, en Europe centrale, où on pouvait trouver beaucoup de choses faites sur place, beaucoup de.
Alors en allemand, effectivement, le mot, ça signifie des délicatesses au fond. Hein. Ça vient du français. Et ça désigne à la fois l'établissement, l'épicerie fine et les spécialités que l'on y mange. On vient y manger des délicatessen, c'est-à-dire du saumon fumé, du caviar, de la charcuterie, des poissons fumés.
Oui, des poissons fumés. Et il y a eu aussi beaucoup une grosse influence aussi de cuisine juive ashkénaze, avec aussi beaucoup de pirojki, du borsch, du poisson fumé, hein, bien sûr.
Aux États-Unis, on a remplacé le K de délicatessen, on a mis un C à la place. Le plus célèbre, c'est Katz's Delicatessen à New York, créé par un juif russe au début du XXe siècle. On y mange des sandwichs au pastrami ou à la viande fumée avec des cornichons.
C'est ça, mal au sol.
Mais alors là, c'est à emporter, si on veut, ou alors on peut le manger, il y a un snack.
Exactement. Aux États-Unis, donc, tous les juifs à l'immigration du fin du XIXe siècle qui sont arrivés aux États-Unis, et principalement à New York, et ils ont donc emporté avec eux tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils cuisinaient chez eux. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on a développé cette dégustation sur place avec beaucoup de snackings et les fameux sandwichs au pastrami énormes qui débordent avec plein de sauces de cornichons qu'on dévore à toute heure de la journée.
Oui, et les desserts, parce que quand vous allez chez Katz, par exemple, vous mangez des glaces.
Ah oui. Alors il y a un endroit aussi incroyable que j'adore, c'est aussi chez Ross & Daughter, où ils font une glace à l'alva, qui est cette pâte de sésame qu'on trouve principalement dans les pays orientaux. Et ils font une glace à l'alva qu'on a importée chez nous. Je vous explique.
Alors, les grandes villes américaines fourmillent de délicatessen, qu'on appelle là-bas les délices. Et comme à New York, c'est souvent tenu par des juifs originaires d'Allemagne ou de Russie. On croit que tout ce qu'on mange dans les délicatessen est typiquement juif. Et c'est l'acteur Kirk Douglas, dans ses mémoires, qui raconte que quelle n'a pas été sa surprise quand il est arrivé en Israël. Il n'y avait pas de délicatessen. Il cherchait des sandwichs au pastrami. Il a découvert que c'était pas juif le sandwich au pastrami, c'était juif américain.
Et oui, quelle frustration il a dû avoir. Oui, ça j'imagine. Oui, effectivement, oui.
En France, donc, où l'on a une longue tradition de charcuterie traiteur, les délicatessen sont restés exotiques. Pourquoi vous décidez aujourd'hui d'utiliser le mot et pourquoi faire ?
Alors, c'est une très bonne question. C'est un mot sur lequel on a beaucoup débattu avec mon père, mon frère, notre associé Raphaël, savoir comment on allait appeler ces épiceries où on voulait mettre tout. Tout le monde a voulu mettre ce qu'on voulait, ce qu'on aimait. Et donc, le mot, en fait, je trouve que c'est un mot qui fait rêver. Qui veut dire que c'est une rêverie. On sait qu'on va trouver plein de choses faites sur place. Et donc, je trouvais que ça convenait pas mal à ce qu'on voulait faire de ces épiceries fines chez Caviari.
Vous avez à la fois de la cuisine juive américaine, danoise, russe, allemande. On trouve aussi bien du pastrami que du tarama, du koulibiak, des pirojki, des smørrebrød.
Exactement.
Il paraît que ça a disparu au Danemark, d'ailleurs, et que ça, c'est en train de revenir, les smørrebrød.
Alors, complètement. Alors, smørrebrød, c'est un nom danois et typiquement, ça veut dire donc tartine de pain beurré sur lequel on met beaucoup de choses, principalement du saumon, des cornichons, des pickles, bien sûr.
Les
pickles, alors ce ne sont pas que les cornichons, ce sont toutes les variantes, tous les légumes marinés. Hein. Et donc, c'est les smørrebrød. C'est une tartine de pain de seigle. Et ils reviennent à la mode au Danemark. Extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est sain. On peut les manger à toute heure de la journée. Et il y a beaucoup, beaucoup de restaurants, dont un grand restaurant à Copenhague qui s'appelle Amman, qui en a fait aussi même une chaîne de délis autour des smørrebrød. Oui, complètement.
Alors, dans vos délicatessen, il y a à la fois l'épicerie fine et la restauration.
C'est ça. Encore une fois, dans ces délicatessen, ça veut dire qu'on peut manger à toute heure de la journée, aussi bien le matin avec un cookies, un cake, ou alors un petit smørrebrød et un verre de vin blanc. Et ensuite, jusqu'au soir, on peut manger à toute heure de la journée du salé, du sucré. Et dans le nouveau délicatessen qu'on vient d'ouvrir à Saint-Paul, Le jour même, on a ouvert, donc il y a 10 jours, à 10h du matin, il y a un étranger qui est venu prendre son smorbrod avec un verre de schnapps, qui est une aquavite locale.
Voilà, c'est des choses qu'on peut faire.
J'adore.
À Paris,
mais
désormais.
Voilà, mais désormais, c'est extrêmement mon rêve. Voilà.
Ah oui, vous rêviez
oui,
de ça, vous.
Oui, complètement, oui.
Mais alors, vous avez choisi les décors nordiques en bois. C'est assez
totalement
rustique, c'est écologique. Ce n'est pas le délice à l'américaine. Hein. Ce n'est pas non plus l'épicerie à l'allemande où flottait une odeur de saucisse.
C'est vrai. Bah, je l'ai fait un peu à mon goût. C'est-à-dire que j'ai une affection particulière pour tous les meubles danois, enfin, toute cette inspiration avec beaucoup de bois. Et je trouve que c'est chaleureux. On avait vraiment envie de faire des lieux chaleureux comme à la maison. Où il y a beaucoup de meubles qui sont chinés. Donc, chaque endroit, chaque délicatessen dans Paris a sa propre unité, son âme. Et donc, beaucoup de meubles chinés, beaucoup d'inspiration du moment avec une très belle façade.
Karimbo, il y a évidemment du caviar dans vos délicatessen.
Ça, oui,
il y en avait dans les délicatessen allemands. Hein, il y en avait également. Je me suis demandé d'ailleurs si ce n'était pas pour Caviari qui, je le disais, importait du caviar sauvage iranien à ses débuts dans les années, il y a 40 ans maintenant. Depuis, vous êtes reconverti avec succès dans le caviar d'Elsvage. Je me suis demandé si d'ailleurs ces délicatessen, ce n'était pas un moyen de démocratiser le caviar au fond, qui est un tout petit peu moins cher maintenant qu'il est d'élevage.
Oui. Que alors, vous avez complètement raison. Toujours dans mon rêve, dans notre souhait à nous tous de démocratiser ce mets qui est absolument incroyable, non pas le désanoblir, mais le rendre accessible, c'est-à-dire le caviar, on peut le manger à toute heure de la journée sur un blinis crème fraîche à moins de 50€, ou une petite cuillère de caviar le matin pour se mettre en route. Mais tout ça dans une ambiance très décontractée, décomplexée, mais très raffinée. Voilà, c'est pas parce qu'on mange une cuillère de caviar que voilà, c'est le comble du luxe.
Mais est-ce que vous rêvez aussi d'un caviar qui serait aussi démocratique que le saumon? Parce que le saumon, aujourd'hui, on en trouve absolument partout, à tous les prix.
Bien sûr. Alors, ça ne sera pas, parce que c'est pas du tout la même. Le caviar, il faut du temps. C'est pas du tout. Ça reste une niche, une production qui est assez limitée. Donc,
jamais il y en aura autant.
Il y en aura pas partout. Non. Mais en tout cas, on pourra le manger de manière décomplexée avec une bonne vodka et une cuillère de caviar. Voilà.
Merci Karine Nebeau. Bonne chance pour vos délicatessen.
On vous attend tous et je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Merci.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine est terminé. On se retrouve demain dans C'est arrivé demain. Et Pierre de Villeneuve vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric.
Quel est le programme des grandes voix aujourd'hui?
Eh bien, les restrictions du gouvernement suite au Conseil de défense sanitaire, bien sûr. Christiane Taubira, nouvelle donne à gauche à la présidentielle. Et Emmanuel Macron en pleine opération service après-vente.
Merci Pierre. Bonne émission.
Merci.